Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un peu, confier à des intelligences artificielles la tâche de définir un principe éthique fondamental. Une sorte de boussole, quoi, pour guider la solidarité humaine envers les plus vulnérables. C'est une idée qui peut sembler un peu folle, hein, presque de la science-fiction. Et pourtant, c'est au cœur des documents qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Un concept assez audacieux, le projet Graal.
Oui, c'est radical, c'est vrai. Et ça naît d'un constat assez largement partagé dans les sources qu'on a lues, celui d'une fragmentation en fait, une fragmentation persistante dans le secteur de l'aide, de la solidarité.
Fragmentation, c'est-à-dire?
Les textes parlent des silos institutionnels, vous savez, chacun travaille un peu dans son coin, mais aussi, et c'est peut-être plus profond, les limites humaines.
Ah, les biais cognitifs, ce genre de choses.
Une difficulté quasi structurelle à intégrer l'énorme diversité des savoirs utiles. Un des documents, Claude.pdf, le dit très bien, l'incapacité humaine à gérer toute cette complexité. L'expert en droit qui connaît pas la philo du Caire, le chercheur en sciences humaines qui ignore les contraintes légales. Enfin, ce genre de cloisonnement.
D'accord. Et le résultat, c'est qu'il manque un fil rouge, un principe commun?
C'est ça, il manque un principe fédérateur, universel, qui soit vraiment centré sur la dignité, sur l'autonomie de la personne.
De plonger dans ce projet Graal. On va s'appuyer sur les différents textes, les notes, les archives, pour essayer de comprendre comment ça pourrait marcher, comment une IA pourrait faire ça, sur quoi ça repose et qu'est-ce que ça vise vraiment. Alors, on y va, décortiquons ça.
Oui, et précisons tout de suite une chose importante qui ressort des textes. Le but, c'est pas de remplacer l'humain, pas du tout. L'ambition, elle est autre, plus subtile peut-être. Il s'agit d'essayer de révéler une cohérence éthique qui serait déjà là, mais cachée, latente, comme ils disent. Une cohérence cachée dans l'immense masse des connaissances humaines sur le sujet.
Révéler une cohérence cachée.
Oui, via un processus logique très rigoureux, presque formel. Pour faire émerger ce que les textes appellent une pensée systémique pure, une sorte de constitution éthique pour la solidarité.
Une constitution éthique générée par une IA, c'est là que ça devient vraiment fascinant. Les documents décrivent le cœur du système, le jardin clos logique. Alors, comment ça marche ce truc?
C'est une sorte de débat ultra structuré entre des IA, chacune avec son rôle.
Exactement, c'est tout à fait ça. L'idée, c'est de mettre en scène un dialogue, une dialectique, entre quatre acteurs IA spécialisés. Le premier, c'est le propositionneur, le thésiste, on pourrait dire.
D'accord.
Son rôle?
Lui, il lance le débat. Il formule des propositions de principes éthiques, parfois audacieuses, hein. Par exemple, il pourrait dire, le principe premier, c'est la préservation absolue, inconditionnelle, de l'autonomie de décision de la personne accompagnée.
Ah oui, proposition forte, j'imagine qu'il y a quelqu'un pour le contredire, non?
Ben oui, forcément. C'est le rôle de l'antagoniste. L'antithésiste, c'est l'avocat du diable, logique. Sa seule mission. Chercher méthodiquement toutes les failles, les contradictions, les paradoxes, les conséquences problématiques.
Et sur l'exemple de l'autonomie absolue, il dirait quoi?
Il pourrait objecter, par exemple, attends, mais cette autonomie absolue, ça coince. Qu'est-ce qu'on fait si la personne, à cause de sa vulnérabilité, hein, troubles cognitifs, grosse détresse psy, prend une décision qui est clairement dangereuse pour elle, pour sa santé, sa sécurité? Là, votre principe d'autonomie absolue, il entre en conflit direct avec le devoir de protection, de bienveillance.
Le conflit classique. Et comment le système est censé résoudre ça?
Alors, là, c'est le troisième acteur qui entre en jeu, le synthéticien.
Le systémicien.
Son boulot, c'est d'analyser la thèse et l'antithèse, de voir ce qu'il y a de valable des deux côtés et de proposer une nouvelle formulation, une synthèse qui dépasse la contradiction. Les documents parlent même de l'Aufhebung de Hegel, tu vois. Conserver, nier et dépasser.
D'accord. Et concrètement, sur notre exemple?
Face à ce conflit autonomie-protection, le synthéticien pourrait proposer quelque chose comme « Ok, formulons plutôt un principe de soutien prioritaire à l'autonomie. L'autonomie reste le but premier, mais la bienveillance peut justifier une intervention protectrice, subsidiaire, très encadrée, temporaire, proportionnée, réversible, et seulement si la capacité de décision est vraiment altérée et qu'il y a un risque grave avéré. »
D'accord, on voit la logique de progression. Et le quatrième acteur, alors, son rôle?
Le quatrième est crucial, c'est le référentialiste. le gardien du corpus. Lui, il n'argumente pas sur le fond. Il est l'arbitre factuel et normatif.
Comment ça, l'arbitre factuel ?
Il a accès à la base de connaissances, la base sacrée, si on veut, les lois, les traités internationaux, l'éthique reconnue, les faits scientifiques. Et sa fonction, c'est de vérifier si les arguments ou les propositions sont conformes à ce corpus. Si l'antagoniste déforme un concept ou si une synthèse viole un droit fondamental, hop, le référentialiste le signale.
Donc, si par exemple l'antagoniste sortait un argument un peu flou sur le paternalisme bienveillant pour limiter l'autonomie...
Exactement, le référentialiste pourrait intervenir. Attention, l'argumentation là, elle risque d'être en tension avec l'article 12 de la Convention ONU sur les droits des personnes handicapées, qui affirme le droit à la capacité juridique égale et qui demande qu'on soutienne cette capacité. Donc, la proposition doit être affinée pour intégrer ça avant d'imaginer une substitution. Il s'assure en gros que le débat reste ancré dans les savoirs et les normes humaines validées.
Ce qui est intéressant ici, c'est moins les IA elles-mêmes, finalement, que cette structure de dialogue hyper rigide. C'est pas juste une conversation, quoi.
Absolument. C'est ça qui est fascinant, en fait. Le protocole lui-même s'est décrit comme un processus itératif, très strict, inspiré de la logique dialectique des systèmes d'argumentation formels. C'est cyclique. Thèse. Attaque de l'antagoniste. Évaluation de ces attaques par le référentialiste, valide ou pas, par rapport au corpus. Si les attaques sont valides, alors le synthéticien propose une nouvelle synthèse, et cette nouvelle synthèse devient la thèse pour le tour suivant.
Et ça tourne en boucle? Ou bien ça s'arrête à un moment?
Non, non, il y a une condition d'arrêt, très précise, d'après les documents. Le processus s'arrête quand, face à la dernière proposition du synthéticien, l'antagoniste n'arrive plus à trouver la moindre objection. Aucune objection valide, logiquement, et par rapport au corpus.
Ah, d'accord. Et cet état final, c'est...
C'est ce qu'ils appellent un état stable. La proposition qui en sort est alors considérée comme super robuste, parce qu'en théorie, elle a résisté à toutes les critiques possibles dans ce cadre logique et référentiel donné.
Techniquement, on ferait ça comment ? Les documents donnent des indices sur la techno derrière.
Oui, un peu. Ils parlent d'utiliser des grands modèles de langage, des LLM. Les sources citent GPT-4, Llama 3, Mixtral, comme exemple possible. Mais attention, des modèles spécifiquement entraînés, fine-tunés pour chaque rôle.
Ah oui, un LLM spécialisé pour synthétiser, un autre pour critiquer.
C'est l'idée. Le synthéticien, par exemple, il serait nourri de textes de philodialectique, de résolution de conflits conceptuels. Il mentionne aussi des cadres logiques formels, comme l'ABA, Assumption-Based Argumentation, pour garantir la rigueur du débat argumentatif. Et puis, il faudrait un moteur de règles, un orchestrateur, pour gérer tout ça, faire respecter le protocole, les tours de parole.
D'accord. Mais même avec toute cette technologie, la question qui me vient tout de suite, c'est d'où elle vient la légitimité ? La légitimité d'un principe éthique qui serait pondu par des algos ?
C'est la question clé, bien sûr. Et les documents y répondent assez clairement. La légitimité, elle ne viendrait pas de l'IA elle-même, pas de sa supposée intelligence ou conscience. Non, elle découlerait entièrement des données humaines sur lesquelles elle travaille et de la rigueur logique du processus. La source de la valeur, c'est le corpus de référence. L'IA, c'est juste un outil de traitement logique et de synthèse, mais à une échelle immense.
Ces corpus de référence, justement, ils sont définis? On y mettrait quoi, précisément?
Oui, les documents identifient 4 grands types de corpus. Il faudrait les numériser, les structurer pour que les IA puissent les utiliser. Premièrement, le corpus droit et normes. Assez logique.
C'est-à-dire les lois, les décrets?
Voilà, les textes fondamentaux, Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention ONU sur les droits des personnes handicapées, les lois nationales pertinentes, comme le Code de l'action sociale et des familles chez nous, la jurisprudence importante aussi. Le cadre légal, quoi.
D'accord, le cadre normatif. Ensuite.
Deuxièmement, le corpus philosophie et éthique. Là, on irait chercher chez les grands penseurs. Kant, Rawls sont cités, pour la dignité, la justice, l'autonomie, mais aussi des courants plus récents, comme l'éthique du Caire, Gilligan, Tronto sont mentionnés, ou les travaux sur la narration, l'identité, comme chez Ricoeur, pour avoir la profondeur de la réflexion éthique humaine.
Et le troisième type de corpus ?
Les sources insistent sur le besoin de concret, de vécu. Tout à fait. C'est le troisième I. Corpus, savoirs expérientiels et sciences humaines. Essentiel pour pas rester dans l'abstrait. Là, on mettrait des témoignages directs de personnes concernées, de leurs proches, des professionnels. Mais aussi les analyses des sociologues. Pogam, Castel sont données en exemple. Les rapports d'ONG, les enquêtes de terrain. Une source comme le site dedici.org est même citée, comme exemple de recherche non académique riche en savoir vécu. C'est intéressant comme ouverture.
Oui, ça ancre le truc dans le réel. Et le dernier i ?
Quatrièmement, le corpus pratique professionnelle et déontologie. Là, on trouverait les codes de déonto des métiers soignants, travailleurs sociaux, les chartes des droits des usagers, comme la charte des droits et libertés de la personne accueillie, les recommandations de bonnes pratiques, type haute autorité de santé, et là aussi, dedici.org est mentionné pour l'apport sur les méthodes concrètes, la déontologie appliquée. L'idée, c'est vraiment de forcer le dialogue entre tous ces savoirs qui, d'habitude, se parlent peu.
Ok, donc on a ce jardin clos logique qui tourne, qui mouline toutes ces données et qui arrive à son état stable. Qu'est-ce qu'on obtient à la fin concrètement ? Les documents parlent de déclaration autoconstituée. C'est quoi ?
Alors, c'est pas juste une jolie phrase. C'est décrit comme un résultat en trois parties, un artefact logique complet. D'abord, bien sûr, il y a la proposition principale, le Graal, si on veut, la formulation finale du méta-principe éthique, épurée, robuste, celle qui a survécu à tout. Un exemple possible donné dans les notes, ce serait un truc du genre « Toute intervention auprès d'une personne vulnérable doit viser uniquement à soutenir ou restaurer son pouvoir d'agir et doit être A. demandée par elle ou avoir son consentement éclairé et continu, B. justifiée par un bénéfice direct défini d'abord par la personne elle-même et C. pensée dès le départ pour s'effacer progressivement au profit de son autonomie. »
C'est dense. Comment on peut être sûr que c'est pas juste une belle phrase un peu vide ? Comment on vérifie le cheminement ?
Ah, c'est le rôle de la deuxième partie du résultat, le corpus de preuves logiques. Ce serait l'enregistrement complet, traçable, de tout le débat dialectique. Absolument tout. Chaque thèse initiale, chaque objection de l'antagoniste, chaque intervention du référentialiste avec les références précises au corpus source, chaque synthèse. Tout serait documenté. C'est cette preuve, cette traçabilité, qui est censée donner la crédibilité, la légitimité. En théorie, n'importe qui pourrait auditer le raisonnement.
D'accord, ça apporte une forme de transparence, oui. Et la troisième partie ?
La troisième partie, ce seraient les déclinaisons principales ou opérationnelles. Des principes secondaires, en quelque sorte, dérivés logiquement du grand principe, mais appliqués à des situations plus concrètes. Le partage d'infos confidentielles, l'intervention en urgence, l'accompagnement de personnes avec des troubles de la communication. Ça rendrait le principe général plus facile à utiliser sur le terrain, plus opératoire.
Pourtant, le document claude.pdf a l'air d'insister sur le fait que le but, c'est pas d'imposer cette déclaration, pas comme une nouvelle loi gravée dans le marbre.
Tout à fait. Et ça, c'est vraiment crucial pour pas se méprendre sur le projet. Il est décrit non pas comme un générateur de vérité absolue, mais comme un outil de révélation ou un générateur de possibles.
Un générateur de possibles.
Ouais. Le succès, ce serait pas forcément que tout le monde adopte le principe tel quel immédiatement. Ce serait plutôt que les acteurs humains le trouvent éclairant, stimulant, voire inattendu. L'idée, c'est que l'IA, grâce à sa capacité à traiter la complexité, à voir des liens cachés, pourrait proposer des angles, des perspectives qu'on n'aurait pas vues nous-mêmes. C'est une aide à la réflexion éthique, pas une machine qui décrète la morale.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie, au fond ? Le potentiel intellectuel est... Oui, indéniable. Mais on sent bien les difficultés. Les documents eux-mêmes parlent de défis techniques, l'interopérabilité des systèmes, etc. Mais aussi des risques plus profonds, non ? Le risque de déshumanisation, si on appliquait un tel principe, même parfait logiquement, de façon mécanique, sans empathie, sans discernement.
Oui, c'est un risque mentionné. Et la nécessité d'une appropriation, d'une validation humaine à la fin, est d'ailleurs soulignée.
Bien sûr.
Et ça nous amène à la tension philosophique de fond que les sources mettent bien en avant. Ça soulève une question importante et même assez vertigineuse, je trouve. Est-ce qu'une vérité éthique, découverte par la pure logique d'un algorithme, nettoyée des émotions, des biais, des hasards de l'histoire, est-ce qu'elle a plus de valeur, plus de légitimité qu'une éthique qui s'est forgée collectivement dans le temps long, avec les débats passionnés, les compromis difficiles, la compassion, les erreurs aussi et les apprentissages?
C'est une sacrée question.
Les textes présentent le projet Graal un peu comme une expérience de pensée, comme Galilée qui imaginait des objets sans friction, essayait de s'abstraire des frictions humaines pour voir si un principe plus fondamental apparaît.
Un des documents parle aussi du pari épistémologique du projet. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est l'hypothèse de base, le pari fondamental sur lequel tout repose, c'est l'idée qu'une forme de vérité, ou au moins de cohérence éthique profonde, elle existe déjà, implicitement. Elle serait là, cachée dans l'immense corpus des savoirs humains, juridiques, philosophiques, expérientiels, pratiques. Simplement, on ne la voit pas à cause de la fragmentation de ces savoirs et à cause de nos propres limites cognitives.
Donc Léa ne créerait rien, elle ne ferait que révéler.
C'est ça l'idée. Elle ne crée pas l'éthique, elle la met au jour, en connectant logiquement les points qu'on est incapable de relier nous-mêmes de façon exhaustive. C'est un pari audacieux, hein, sur l'existence d'une sorte de sagesse latente dans notre propre production intellectuelle et morale collective.
Bon, si on essaye de résumer un peu notre exploration d'aujourd'hui, le projet Graal, tel qu'il est décrit dans ces textes, ça apparaît comme une tentative vraiment radicale, presque expérimentale, d'utiliser l'IA d'une façon nouvelle dans le domaine de l'éthique. L'idée, c'est pas qu'elle décide à notre place, mais qu'elle nous aide à extraire, à révéler une sorte de sagesse collective latente sur la solidarité. L'objectif est énorme, générer une constitution éthique universelle, fondée logiquement et issue d'une synthèse hyper complète de tous nos savoirs.
Oui, et si on prend un peu de recul, l'ambition décrite, elle va même au-delà de juste produire un texte. Elle vise potentiellement à changer la manière dont on débat de l'éthique dans ce secteur si complexe. Au lieu d'avoir des positions qui s'affrontent stérilement, des intérêts qui s'opposent, les acteurs humains pourraient peut-être utiliser les propositions de ce système comme un point de départ commun. Un terrain neutre pour explorer de nouvelles synthèses, de nouveaux consensus.
Passer de la confrontation à l'exploration.
Voilà, une exploration collaborative guidée par une rationalité, augmentée en quelque sorte.
Et pour finir, peut-être une pensée un peu provocatrice, laissée en suspens par ces documents et qui fait réfléchir. Si on arrivait vraiment à générer un tel principe éthique, pur, logiquement parfait, débarrassé de nos biais, de nos limites, qu'est-ce qu'on risquerait de perdre en chemin ? Est-ce que la valeur de l'éthique, au fond, elle ne réside pas aussi, et peut-être même de façon essentielle, dans le processus humain de sa construction, même s'il est imparfait ? La délibération collective, le conflit parfois utile, la compassion, l'empathie, l'apprentissage ensemble, tout ce cheminement un peu chaotique, mais si profondément humain. Voilà, c'est une question assez vertigineuse, je trouve, pour méditer après cette plongée dans le projet Graal.